Début novembre, c'est traditionnellement dans nos églises protestantes la fête de la Réformation. Alors avant de travailler, j'ai travaillé ça, journée à tout ça, avant de travailler ce texte, je me suis informé de savoir si au culte déjà dimanche dernier, on n'avait pas traité de ce sujet, je n'étais pas là, et apparemment la réponse a été négative. Donc je propose ce matin, je vous propose qu'on parle un peu de la fête de la Réformation. C'est une joie et un bienfait pour nos églises protestantes, du moins celles qui se reconnaissent de la Réforme, que cette occasion de se pencher ainsi une fois par an sur leur passé pour en tirer des leçons, des orientations et des encouragements. Mais plus les années passent et avec elles, les bouleversements de notre monde, un tel retour en arrière est-il possible et désirable? En effet, les préoccupations premières ne se nomment plus guerre mondiale, péril de ceci ou péril de cela, mais bientôt, quel est le devenir de notre planète? La pauvreté, l'immigration, et j'en passe. Ce constat ne nous oblige-t-il pas à regarder au passé plutôt qu'au présent? Pardon, au présent plutôt qu'au passé, excusez-moi. Et que pouvons-nous bien attendre d'une méditation sur les événements du XVIe siècle? En un moment où nous sommes happés, tourmentés, dévorés par les événements de plus en plus préoccupants de ce début du XXIe siècle. En y regardant de près, on peut bien arriver à la conclusion que, loin d'être actuel, comme on pourrait le croire au premier abord, ce qui s'est passé au moment de la Réformation est puissamment instructif pour nous dans cette espèce de transformation de la société, transformation que nous vivons et à laquelle on n'échappe pas. À la lecture des textes que nous venons de parcourir et qui traitent du problème de la souveraineté, il apparaît qu'une des solutions aux difficultés de l'heure présente, difficultés différentes sont les sensibilités de chacun, des difficultés qui ont pris une autre forme que celle dramatiquement vécue au long du siècle dernier, qu'une des solutions donc pouvait être abordé sous l'angle de la souveraineté. Déjà, comment se pose ce problème? Et à partir de là, quelle est la réponse que la Réformation a donnée? À qui, dans l'univers, appartient l'autorité souveraine? À l'homme répondent à l'envie toute espèce de voix. Déjà, au premier jour du monde, la tradition nous montre l'esprit du mal, suggérant au premier couple de manger le fruit défendu. Alors, vous serez comme des dieux. Et depuis lors, jamais dans l'humanité ne s'est éteinte la tendance à mettre l'homme au-dessus de tout et à faire de lui le roi absolu de la création. Cette tendance s'est particulièrement intensifiée au siècle dernier, et ce n'est plus en sourdine, en cachette. C'est au grand jour et avec éclat que se sont affirmées les prétentions de l'homme à l'autorité souveraine. La raison humaine a été exaltée, divinisée, considérée comme capable de tout comprendre et de tout régler. Ailleurs, ce sont les passions humaines qui ont affirmé leur droit à se développer sans entrave, pour que la personnalité pût entièrement s'épanouir. Ailleurs encore, à la faveur des progrès de la science et de la technique, il a été proclamé que la puissance humaine était sans limite, que le progrès humain était comme une armée en marche qui ne connaît pas d'obstacles et bouscule tout sur son passage. Au cours de cette hier ou de cette avant-hier, la divination de l'homme a pris des formes inédites. Ce sont les collectivités humaines que l'on a mises au pinacle. On s'est aperçu de la puissance des masses, et c'est aux masses que l'on a attribué la souveraineté. Ici, ce sont des meneurs politiques affirmant que le parti est au-dessus de tout, ce qui implique obéissance et sacrifice, même de conscience. D'où l'usage de ces armes odieuses que sont le mensonge et la démagogie. Là, ce sont des gouvernants, des dictateurs qui programment que l'État doit se ranger sans discuter, jamais sous la loi souveraine de l'intérêt et du prestige du pays. Malgré les nets progrès de la démocratie dans notre monde actuel, l'actualité n'est pas avare d'exemples de toutes sortes pour appuyer ces tristes constatations. Au cours du siècle dernier, encore lui, n'a-t-on pas vu la race proposée aux hommages et à l'adoration de ses contemporains? On l'a déclarée pure, sainte, parfaite. On lui a attribué tous les droits, y compris celui de s'emparer par la force de tout ce qu'elle a considéré comme son espace vital. Durant cette même période, les atrocités des différentes guerres dont beaucoup d'entre nous sont encore témoins en sont la triste démonstration. Malheureusement, ce racisme rampant est toujours présent, de même que l'affirmation de la souveraineté de l'homme risque encore de nous conduire vers l'irréversible. Certes, les problèmes du monde ont changé, même si plane sur notre tête, entre autres, le danger nucléaire. Certes, les grands problèmes du moment nous obligent de plus en plus à porter nos regards vers le futur, et notamment la question de savoir ce que sera cette terre que nous léguerons à nos enfants. La raison humaine qui devait faire tant de merveilles, qui devait tout régler, tout rationaliser, le progrès technique dont on n'imagine pas jusqu'où il nous mène, n'ont pas réussi à rendre l'homme assez raisonnable pour nous éviter les pires scénarios du demain de notre planète. S'il est vrai que l'arbre est jugé par ses fruits, il apparaît comme bien mauvais l'arbre de la souveraineté de l'homme, puisqu'il est capable de porter des fruits aussi empoisonnés. Or, c'est ici que la réforme intervient pour nous faire entendre son message libérateur, pour proclamer face au triste spectacle des résultats de l'exaltation de la souveraineté humaine, la grande, la bonne, la salutaire nouvelle de la souveraineté de Dieu. La réforme, en effet, dans son essence profonde, est cela, et rien que cela. Une revendication des droits de Dieu, une affirmation vigoureuse, passionnée, intransigeante envers et contre toutes les autorités humaines de la souveraineté divine. On dit souvent que nos réformateurs ont livré leur combat au nom du principe de libre examen, au nom des droits de la conscience individuelle. Ce n'est vrai que d'une manière toute relative. En réalité, si Luther et Calvin ont réclamé la liberté de penser, s'ils ont voulu affranchir les cœurs et les esprits de tout ce qui indûment les emprisonne, c'était pour que les cœurs et les esprits obéissent non pas à eux-mêmes, mais à Dieu. C'était pour que rien ne vînt limiter leur appartenance au Dieu souverain. Rien de plus faux que de faire de nos ancêtres en la foi des hommes occupés à revendiquer les droits de l'homme. La seule chose qu'ils revendiquaient pour l'homme, c'était la possibilité d'obéir exclusivement à Dieu. Qu'est-ce qui se passe au procès de Luther, à la diète de Worms, ce point tournant de notre histoire protestante? Les puissances sont là, au grand complet. La puissance impériale, la puissance sociale, la puissance ecclésiastique aussi. Et elles veulent imposer au petit moine Luther de rétracter ses idées considérées comme dangereuses. Mais le petit moine Luther sait que ses idées ne sont pas les siennes. Il ne les a pas inventées, il ne les a pas choisies. Il les a trouvées dans la Bible. Et Dieu les lui a confirmées par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Comment dès lors les abandonnerait-il? Non, il ne les abandonnera pas. Il les maintiendra irréductiblement au péril de sa vie, de sa liberté. parce qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, parce qu'il n'y a qu'une seule autorité souveraine, qui n'est pas celle de la tradition, celle de l'État, celle de l'Église, mais celle de Dieu. Et les puissances humaines, pourtant bien puissantes, hésiteront devant le petit moine désarmé, parce que dans ses paroles, elles auront perçu un écho, parce que dans ce regard, elles auront vu le reflet de quelque chose qui les dépasse, qui n'est pas celle de la tradition. Elles ont vu le reflet de quelque chose qui les dépasse, la manifestation d'une autorité surnaturelle plus haute que la leur. Si nous voulions une autre preuve de ce souci fondamental de nos réformateurs, d'affirmer la souveraineté de Dieu, il nous suffirait de rappeler la devise de Calvin. À Dieu seul la gloire. À Dieu seul la gloire et à Dieu seul l'autorité. Toute la grandeur du calvinisme est dans ce souci de mettre Dieu au-dessus de tout et de se soumettre à lui en tout. Il serait facile de multiplier les exemples de ce que la réforme a voulu y enseigner sur ce point. Les martyrs mourant sur le bûcher et les femmes emprisonnées dans la tour de Constance pour délit de lecture de la Bible. Les forçats ramant sur les galères du roi pendant des dizaines d'années pour crimes de participation aux assemblées. Que nous disent-ils tous, sinon qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, que l'obéissance à Dieu est préférable, même à la liberté et à la vie, et que ce n'est pas aux organisations humaines, aux gouvernements humains, aux puissances humaines que l'autorité souveraine appartient, mais à Dieu seul, au Dieu saint et bon, dont la volonté est l'unique loi et l'unique salut du monde. Hélas, ces grandes affirmations et ces grands exemples n'ont pas eu le sort qu'ils méritaient. Beaucoup ont refusé d'y prendre garde. Et même, parmi les héritiers spirituels de la Réforme, le message essentiel de la Réforme a été souvent oublié. Il est triste de dire qu'il y a et qu'il y aura encore longtemps de nombreux protestants qui, consciemment ou non, retombent dans l'erreur, dans le péché qui consiste à mettre l'homme au-dessus de tout. Est-il possible de dire que ce sont là des protestants infidèles à l'esprit de la Réforme? Je ne répondrai pas. Si l'esprit de la Réforme, au lieu d'être si abondamment persécuté par ses adversaires et si tristement abandonné par quelques-uns de ses partisans, avait triomphé, largement triomphé dans le monde, si la souveraineté de Dieu avait été acceptée, reconnue, obéie par une quantité suffisante de ses adeptes, nous n'en serions peut-être pas où nous en sommes aujourd'hui. Si la souveraineté de Dieu était reconnue, imaginons-nous bien ce qui se passerait. La raison humaine, qui est grande et puissante, serait capable de régler la vie des hommes parce qu'elle accepterait elle-même une règle plus haute. Si la souveraineté de Dieu était acceptée, les passions humaines ne seraient plus déchaînées, elles seraient disciplinées. Au lieu de ressembler au torrent qui dévaste et détruit tout sur son passage, elle serait comparable à l'eau que le barrage accumule pour la production d'électricité ou le canal qui recueille et dirige l'eau pour l'irrigation de la terre. Si la souveraineté de l'homme, de Dieu, était reconnue, la puissance accumulée par la civilisation humaine ne serait pas employée au bénéfice des égoïsmes et des orgueils ou des ambitions, mais au bénéfice d'une volonté sainte, et ce serait le vrai progrès au lieu de ce recul que beaucoup déplorent aujourd'hui. Si l'autorité souveraine de Dieu était reconnue, les débats de société existeraient, certes, mais au sein de ces débats, Dieu serait présent, évitant ainsi 1000 déchirements, 1000 haines, 1000 mensonges. Si l'autorité souveraine de Dieu était reconnue, les nations de notre monde admettraient qu'au-dessus de leurs intérêts, au-dessus de leur prestige, il y a une loi supérieure. Et l'acceptation de cette loi assurerait la paix. Et l'orgueil et les prétentions que l'on imagine dans tous les domaines ne pourraient plus subsister un seul instant si l'autorité souveraine de celui qui est le Père de tous les hommes était pour tous les hommes acceptée. Voilà. On est pratiquement terminé. Peut-être ne partagez-vous pas cette vision. ni cette conviction de l'actualité du message de la réformation ou des réformateurs. Cette souveraineté de Dieu qu'ils ont proclamée comme le remède seul efficace contre les maux de l'Église de leur temps est aussi le seul remède qui pourrait guérir les maux innombrables de notre Église à nous, l'Église universelle. Est-il prétentieux de dire qu'il n'est pas inutile, certes, de faire ce constat aujourd'hui, mais ce serait peu de chose de l'avoir constaté si nous en restions là. Dieu nous demande en ce moment de faire un pas de plus et de poser le problème dont il vient d'être question, non plus en termes généraux, mais en termes personnels, non plus au point de vue des autres, mais à notre point de vue à nous, chacun individuellement. N'avons-nous pas, nous aussi, participé à la divinisation de l'homme? N'avons-nous pas souvent mis nos idées au-dessus de tout? N'avons-nous pas souvent obéi à nos passions, comme si elles avaient tous les droits? N'avons-nous pas fait constamment de notre succès, de notre triomphe, de notre gloire, de notre richesse, les buts essentiels de notre vie? Eh bien alors, prenons au sérieux, pour nous-mêmes, la leçon de la réforme. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Et puisque je suis homme, il vaut mieux obéir à Dieu qu'à moi. Dieu d'abord et moi ensuite. Dieu au-dessus de tout, au-dessus de mes pensées, de mes passions, de mes intérêts. Dieu au-dessus de mes amitiés, de ma famille, de mon Église. Dieu au-dessus de tout. Un fils n'est pas diminué quand il obéit à son père. Le chrétien ne s'abaisse pas, il grandit quand il se soumet tout entier à l'autorité souveraine de Dieu. Amen.